Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Pour faire face à la crise économique héritée de la pandémie de coronavirus, les pays riches multiplient les plans de relance. Pour les financer, ils s'endettent, souvent sur les marchés financiers. Quant aux pays pauvres, ils cherchent le secours auprès des institutions multilatérales et s'avouent parfois incapables de faire face à leurs échéances. Selon qu'on soit riche ou pauvre, la dette est la solution ou le problème, mais il faut compter avec, quoi qu'il en soit. D'où cette émission, intitulée « La dette jusqu'où ?» avec trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Agnès Benassi-Kéré.
Bonjour.
Agnès Benassi-Kéré, vous êtes chef économiste à la Direction Générale du Trésor au sein du ministère des Finances à Paris. Position éminente qui vous a amené à vous mettre en congé de l'École d'économie de Paris et de l'Université Paris 1 où vous étiez professeur. Professeur d'économie, notre seconde invitée l'est toujours. Bonjour Ishak Diwan.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Ishak Diwan, vous êtes professeur d'économie à l'École normale supérieure à Paris, également directeur de la chaire socio-économie du monde arabe au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres. Et je termine ce premier tour de table virtuel puisque tout le monde est au téléphone avec vous, Chérif Salifsi. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Chérif Salifsi, vous êtes professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien membre du cabinet du président sénégalais Wade au début des années 2000, avec rang de ministre. Au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous avons rendez-vous avec Lucie Mouillot à Kampala en Ouganda, avec Lilia Blaise à Tunis et avec Anne Verdagué du service économie de la rédaction de RFI, ici à Paris. Nous sommes au mois de mai 2021, un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19 et après son impact économique. Là où c'était possible, des plans de relance financés par la dette ont été mis en place. Ces plans ont souvent été financés, sont souvent financés et le seront encore par de l'endettement public. Est-ce qu'on peut chiffrer la dette publique mondiale accumulée aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens, Agnès Benassi-Kéré?
Ah bah oui, on peut toujours chiffrer la dette publique accumulée par les différents pays et faire la somme de tout ça. Il ne faut pas nécessairement s'inquiéter en soi de du chiffre de dette. On pourrait même, de manière un peu paradoxale, dire que c'est une bonne chose dans une période avant crise où finalement les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, ce qui signifiait qu'il y avait trop d'épargne dans le monde. C'est une bonne chose que y ait un peu de la dette publique, si vous voulez, elle remplace de la dette privée. Enfin, en tout cas, elle compense le fait que les ménages ont accumulé beaucoup d'épargne pendant cette crise, au moins dans les pays avancés.
N'allons pas trop vite, Agnès Benassi-Kéré, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez ce chiffre en tête de dette globale?
Ah non, ça, je peux pas vous le donner comme ça. Ce qui est clair, c'est que dans les pays avancés, la dette aura augmenté après la crise de l'ordre de 10-20 points de PIB, ce qui est tout à fait, qui est très important. Mais ce que je voulais dire, c'est que en même temps, les ménages ont accumulé de l'épargne puisqu'ils n'ont pas pu dépenser leurs revenus. Leurs revenus, globalement, ont été préservés par l'action publique. Ils n'ont pas pu dépenser cet argent. Et donc, vous voyez, il faut prendre les choses globalement. On ne peut pas isoler simplement l'État. L'État, d'une certaine manière, je vais le dire comme ça, hein, l'État s'est sacrifié d'une certaine manière pour dépenser à la place des agents privés qui étaient soit empêchés de dépenser, soit tétanisés, si on parle de l'investissement, par exemple.
Ishak Diwan, est-ce que l'endettement public mondial est un problème pour l'économie?
Il faut dire déjà que l'endettement des pays riches est à un niveau record historiquement. On est entre 110, 120 jusqu'à 140% du produit intérieur brut. C'est des chiffres records qui n'ont pas été vus depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'accroissement de l'endettement, je peux vous dire, c'est à peu près 20 trillions de dollars à travers la crise Covid.
20 trillions, on va préciser ce que c'est 20 000 milliards de dollars, c'est cela?
Exactement, 20 000 milliards de dollars d'augmentation. Les 10% du PIB mondial dont le professeur parlait.
Dont Agnès Benassi-Kéré parlait. Et vu de Dakar, est-ce que c'est cette augmentation de l'endettement mondial, en particulier pour les pays riches, c'est une surprise, Chérif Salifsi?
Bonjour Jean-Pierre, je ne pense pas que ce soit une surprise puisqu'il y avait déjà une tendance à l'augmentation de la dette, particulièrement des grands pays, dès 2018. Aujourd'hui, au niveau de la dette mondiale, elle est, selon l'Institute of International Finance, en 2019, elle était de 250 000 milliards de dollars. Alors vous imaginez si on rajoute les derniers endettements de 2020 et des débuts de 2000, ce qui veut dire qu'elle est importante. Mais la dette prise comme ça, c'est une indication, mais elle n'a pas sérieusement de sens, les États-nations existants, avec des politiques différentes. Parfois même, c'est des politiques communes pour ce qui concerne l'Union européenne. Et oui, l'endettement mondial est important.
Et Ishak Diwan, est-ce que l'endettement privé a également progressé ?
Oui, mais pas autant que l'endettement public. L'endettement privé était déjà très élevé, mais ce qu'on a vu avec la crise Covid, c'est vraiment les pouvoirs publics qui ont pris les devants. Vu que le secteur privé a beaucoup moins investi, toute l'économie a été au ralenti, et donc c'est vraiment le public qui a pris les devants, et c'est la dette publique qui a beaucoup augmenté maintenant.
Agnès Benassikere, quand vous disiez tout à l'heure que les ménages avaient beaucoup économisé au cours de cette crise, est-ce que cela veut dire que l'État s'est endetté et que cet endettement est passé dans les bas de laine ?
Oui, c'est en partie cela. Alors, l'État s'est endetté donc pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Alors, selon les pays, totalement, ou même surcompensé dans certains cas, ou comme aux États-Unis. En France, a juste préservé. En Espagne, n'a pas tout à fait préservé. Enfin, donc ça dépend des pays. Et par ailleurs, l'État s'est beaucoup endetté pour soutenir les entreprises, puisque le meilleur investissement durant cette pandémie, c'était de maintenir le tissu productif de manière à ce que, lorsque l'économie réouvrirait, les entreprises seraient toujours là pour produire les biens et les services qui étaient demandés par les ménages. Donc, effectivement, l'État a compensé donc la baisse de revenus des ménages et également des entreprises, puisque pour les entreprises, cette crise était totalement inédite et catastrophique, hein, avec un effondrement du chiffre d'affaires et puis de l'autre côté, les coûts inchangés. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de très important.
Agnès Benassikere, je vous coupe là juste, excusez-moi, mais quand on parle de dette privée, est-ce que ça inclut la dette éventuelle des ménages aussi, comme celle des entreprises ?
Donc ça inclut la dette des ménages et des entreprises. Alors il faut toujours faire attention quand on parle de dette, est-ce qu'on parle de juste la dette ou est-ce qu'on parle de la dette en écart par rapport à l'accumulation de biens, d'actifs. Par exemple, les ménages ont l'habitude de s'endetter pour acheter des maisons, des appartements.
Ou des voitures.
Est-ce qu'on parle de dette ? Voilà, des voitures. Donc est-ce qu'on parle de la dette brute ou est-ce qu'on déduit de la dette brute les actifs qui ont été accumulés ? Donc on voit que les ménages en termes nets ont accumulé plutôt de l'épargne que de la dette. Mais les entreprises, c'est le contraire. Les entreprises se sont endettées. Malgré les soutiens publics, elles se sont quand même endettées. Il y a eu les prêts garantis par l'État en France et il y a eu l'équivalent dans d'autres pays. Mais ce qui est très important, c'est qu'elles ont aussi accumulé quand même de la trésorerie, et cette trésorerie va être extrêmement utile, évidemment, pour le redémarrage de l'économie.
Alors, vous faisiez allusion, Agnès Benassikere, aux prêts garantis par l'État au bénéfice des entreprises, c'est ce qu'on appelle dans le jargon franco-français le PGE. Un PGE qui fait l'objet de ce reportage éco-d'ici, éco-d'ailleurs, signé Anne Verdaguet du service économique de RFI, reportage que je vous propose d'écouter maintenant.
Sur le toit d'une entreprise parisienne, deux techniciens installent une antenne qui servira à une future salle de conférence. L'entreprise ADI vend et installe du matériel audiovisuel pour les professionnels. Autant dire que depuis un an et la généralisation du télétravail, son patron Bernard Van Steen accuse le coût. Presque 50% de son chiffre d'affaires s'est envolé.
Tous nos clients ont fermé. Toutes les salles de réunion, les salles de conférence, les quelques prestations qu'il y avait encore ont été annulées. Et là, pendant 3 mois, ça a été zéro activité. Voilà. Par contre, il a fallu continuer à payer les loyers, les charges, l'URSSAF quand même si le chômage partiel est arrivé, toutes les charges sociales, il fallait les payer de toute façon.
Bernard Van Steen fait donc appel aux prêts garantis par l'État. Il obtient 25% de son chiffre d'affaires de l'année précédente, soit 150 000 euros.
Ça permet d'abord d'être rassuré. Alors, il faut savoir que psychologiquement, c'est une année qui est très très difficile. C'est déjà pas facile en temps normal de toute façon. Donc, le PGE, moi, ça m'a permis un peu déjà de dormir un peu. Un peu mieux. Donc, c'est quand même assez important. Il va falloir les rembourser un jour aussi. La banque m'a relancé déjà, me disait si vous voulez le rembourser, vous pouvez. Mais il ne me restera pratiquement plus rien sur le compte. Et je préfère avoir ce qu'on appelle cette bouffée d'oxygène. Vous savez, c'est du très très court terme. C'était pas évident. Avant, on était sur du moyen terme. Là, on est c'est au jour le jour. Au jour le jour.
Autre secteur très impacté par la crise sanitaire, la réparation d'automobiles. Car même si les garages considérés comme essentiels par l'État sont restés ouverts, le manque de pièces détachées a conduit beaucoup d'entre eux à réduire leur activité. Il y a un an, le patron de MC Automobile en Seine-et-Marne, Cédric Lecause, a dû fermer pendant plusieurs semaines et mettre son équipe au chômage partiel. Il a alors fait une demande de PGE qui lui a été refusée car son entreprise présentait un bilan négatif.
Les problématiques de ces prêts d'État, j'ai un peu l'impression qu'ils ont été faits pour prêter aux gens qu'on n'avait pas besoin. Aujourd'hui, prêter aux gens qui sont en bénéfice les années précédentes, ces gens-là, sur le papier, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils peuvent utiliser leurs bénéfices pour rester ouverts. Si on dit « oui, mais vous êtes en perte »,« oui, mais c'est pas sûr que ça va marcher », ouais, c'est pas sûr, mais on fait comment ? Personne n'est une boule de cristal. Et moi, je suis fier et content d'avoir mis mon argent propre sur la table, parce qu'au moment de ce refus, ça faisait quand même plus de 4 mois que j'avais embauché du monde, que la société travaillait. Et au final, je suis fier aujourd'hui de dire que je suis en positif sur 2020. J'ai un chiffre d'affaires, un bénéfice, positif sur 2020, sans l'aide de l'État.
Au final, ces aides de l'État ont permis d'éviter de nombreuses défaillances d'entreprises, ce qui fait craindre aujourd'hui un effet rebond. Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière chez Elisphère.
Le PGE a bénéficié également des entreprises qui allaient mal. Donc ce sont des entreprises qui logiquement auraient dû déposer le bilan en 2020. Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles ont eu une somme d'argent. En revanche, cette somme d'argent ne va pas suffire. C'est des sociétés qui ne marchaient pas, donc elles ont permis finalement de compenser des besoins primaires pour l'entreprise. Mais il est évident que ces entreprises feront défaut probablement sur le second semestre. Donc on craint une vague de défaillance qui devrait s'amplifier de l'ordre entre 7 et 10 000 entreprises de plus qu'en 2020.
Suite aux nouvelles annonces de Bercy, les entreprises peuvent demander un nouveau différé d'un an pour rembourser leur PGE.
Un reportage signé Anne Verdaguet dans Écodici Éco d'ailleurs. Agnès Benassi-Kéré, quand l'État autorise ces PGE à être remboursés un an plus tard, pour les banques, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Mais comment est-ce que l'État couvre ça ? Est-ce que c'est intégré comptablement dans la dette publique ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc, ce qui est intégré dans les comptes publics, c'est le risque sur ces prêts. Puisque comme l'État garantit, eh bien, il faut bien prendre en compte qu'une partie de ces prêts, in fine, ne seront pas remboursés. Ce qui n'est pas une proportion énorme. On l'évalue à inférieur à 5%. Donc, si on recule de un an le début de remboursement, naturellement, la sinistralité, qu'on appelle, va augmenter. Mais pas nécessairement de manière énorme. Parce que comme ça a été dit très bien dans le reportage, il y a par ailleurs d'autres aides qui ont maintenu les entreprises hors de l'eau. L'activité partielle, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, les reports de charges. Donc il y a eu de multiples aides pour les entreprises. Et nous avons fait des travaux très détaillés sur 1,8 million d'entreprises françaises.
Nous, c'est les économistes du Trésor.
Au Trésor, voilà, oui. C'est ça. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises donc ont été aidées. Le taux d'insolvabilité, le taux d'entreprise nouvellement insolvable, si vous voulez, ça aurait été 3% une année normale, puisque tous les ans, il y a des entreprises, il y a à peu près 50 000 entreprises qui font faillite tous les ans. Donc une année normale, ça aurait dû être 3%. Alors insolvabilité et défaillance, c'est pas la même chose du tout, mais bon. Donc je parle en termes d'insolvabilité, c'est-à-dire une entreprise insolvable, comptablement, c'est que ses dettes sont supérieures à ses actifs, tout simplement. Donc en temps normal, à peu près 3% des entreprises tombent dans l'insolvabilité une année donnée. L'année 2020, on estime que ça pourrait être 6%, donc le double, mais sans les aides, ça aurait été 12%, donc beaucoup plus important, et des taux allant jusqu'à 30% dans l'hôtellerie-restauration. Donc on a vraiment évité la catastrophe, et ce qui est très important, c'est que les entreprises qui ont été aidées, et ça on a regardé ça très attentivement, ça n'était pas spécialement des canards boiteux, ça n'était pas non plus spécialement des entreprises très bonnes. C'était assez neutre, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que les aides ont été générales. Alors certes, certaines entreprises ont pu voir leur PGE refusé, mais c'était très rare et beaucoup plus rare que, par exemple, le nombre d'entreprises qui faisaient des pertes avant la crise. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, de sélectivité, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Parce que dans le reportage, on entendait les deux sons de cloche, finalement.
Oui, oui, et en fait, statistiquement, alors il peut y avoir des cas, hein, mais statistiquement, c'est les deux risques existent et ils sont équilibrés. Ça va changer en 2021, puisqu'en 2021, on va avoir la réouverture de l'économie. Hein, c'est un peu comme quand la marée descend, ben on voit un peu les épaves. Et donc naturellement, en 2020, il y a eu moins de défaillances dans tous les pays avancés hein, que normalement. Donc on s'attend à un rattrapage sur 2020, mais on s'attend donc à une augmentation du nombre de défaillances, mais pas non plus à un tsunami.
Chérif Salifsi, vu du Sénégal, cette politique des pays européens, et en particulier français, de la France, de s'endetter publiquement pour protéger l'économie privée, est-ce que c'est une saine politique? Est-ce que la même chose a été mise en place au Sénégal ou dans d'autres pays africains?
Mais c'est la même chose qui a été fait non seulement au Sénégal, mais dans les pays africains. Disons que la France, déjà, l'Europe globalement est beaucoup plus sociale que les États-Unis, par exemple. Donc le niveau élevé, pour revenir à la France, de l'endettement résulte d'abord des taux d'intérêt très bas, mais également de l'octroi massif de prêts garantis par l'État français, ce qui risque d'aggraver inéluctablement et faire peser des risques sur les banques commerciales et l'ensemble du système financier français. Nous sommes dans la même situation où il a fallu que l'État s'engage véritablement et très fortement pour soutenir les entreprises.
Chérif Salifsi, pourquoi dites-vous que l'endettement public finit par faire peser des risques sur les banques commerciales françaises?
Il est très important. Si vous regardez l'ensemble des entreprises des pays, industrialisés, c'est la France qui est au sommet, avec une augmentation de 19 points en 2020.
De la dette.
La France est classée première avec un endettement extrêmement fort. Hein? Et vous avez la Chine, alors que l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont au bas de l'échelle avec moins de 80% du PIB d'endettement. Donc c'est pour ça que je parle du risque qui pourrait peser sur les banques commerciales, en France. Le niveau est quand même très élevé.
Agnès Benassi-Kéré, qu'est-ce que vous répondez à Chérif Salif, si vous êtes d'accord avec son analyse?
La dette, elle n'est pas détenue principalement par les banques. Enfin, la dette française, elle est détenue par toutes sortes d'acteurs, en France et à l'étranger. On a beaucoup dit d'ailleurs qu'une partie de cette dette importante avait été achetée par les banques centrales, et notamment de l'Eurosystème, donc
la Banque Centrale Européenne.
Qui fait partie. Ouais, en fait, oui. En pratique, c'est la Banque de France qui achète, hein, c'est l'Eurosystème, c'est-à-dire que la BCE avec les banques nationales. Cette dette-là, ça a été beaucoup critiqué, mais moi je pense que c'est un avantage en fait, parce que c'est un acteur qui n'a pas l'obligation d'abord d'être toujours en excédent, donc de faire des bénéfices, qui ne va pas faire faillite, et qui a le sens dont le mandat, c'est l'intérêt général. Et donc il ne va pas soudainement se mettre à vendre de manière massive la dette qu'il détient.
Sur un marché secondaire. Au contraire, sur un marché secondaire.
Voilà, c'est ça. Donc je pense que au contraire, on a eu quand même une coopération entre les États et les banques centrales qui a été tout à fait positive pendant la crise. Bien sûr, ça suppose en sortie de crise, ça va être un moment un petit peu délicat, mais on peut espérer que avec le rebond de l'activité, et là quand même, il faut bien le dire, hein, les anticipations sont assez bonnes hein, pour le rebond de l'activité. On peut espérer que la situation, la politique monétaire pourra progressivement se normaliser sans qu'il y ait de soubresauts, voire de catastrophes sur le marché des dettes publiques.
Agnès Benassi-Kéré, vous êtes l'une des invitées de cette émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, aux côtés de Ishak Diwan et de Chérif Salifsi. Nous parlons de l'endettement mondial comme solution à la crise économique qui nous frappe à la suite de la pandémie de Covid-19. Ishak Diwan, j'aimerais vous entendre face à ce qu'a dit Chérif Salifsi sur les menaces qui pèsent sur les banques commerciales face à de l'endettement public. Est-ce que c'est est un risque avéré selon vous?
Je crois quand même qu'après la crise de la finance internationale dans les années 2007-2008, le système financier dans les pays riches s'est beaucoup renforcé. Et donc je ne crois pas qu'il y a un risque imminent de ce côté-là. Par contre, et on en parlera tout à l'heure, ce qui s'est passé dans des pays à revenus moyens et pauvres qui n'ont pas pu résister au choc de la même façon que les pays riches, qui n'en ont pas eu les moyens, là, j'ai beaucoup plus d'inquiétudes sur les divergences dans la croissance internationale et le creusement des inégalités qui va s'opérer dans le futur.
Alors justement, on va aller sur le terrain en Tunisie, Ishak Diwane. Après la révolution, 10 ans après la révolution, le pays est très endetté avec une dette extérieure brute qui représente 102% du produit intérieur brut de la richesse nationale. Du 3 au 9 mai, une délégation gouvernementale était à Washington pour négocier auprès du FMI un prêt de 4 milliards de dollars. Mais dans le pays, en Tunisie, certains experts s'interrogent sur l'utilité de cet emprunt qui, jusqu'à aujourd'hui, peine à résorber la crise économique que traverse le pays. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lilia Blaise à Tunis.
Avec une dette publique qui atteint les 102% du PIB, la Tunisie doit encore emprunter, non seulement pour rembourser certains créanciers dont les échéances de prêts arrivent à terme, mais aussi pour boucler son budget 2021 qui prévoit près de 5 milliards d'euros de prêts extérieurs. Mohamed Haddad, journaliste et auteur d'un rapport sur le piège de la dette, estime que le pays est dans un cercle vicieux.
Il y a un piège de la dette dans lequel nous sommes empêtrés. Nous avons étudié les chiffres et on voit que l'endettement augmente et que la croissance baisse. Alors que théoriquement, si on s'endette, c'est non seulement pour pouvoir, dans l'avenir, rembourser le principal de la dette et générer un surplus qui nous permette de faire ce que bon nous semble.
Une croissance en baisse renforcée par la crise sanitaire. C'est la 4e fois que la Tunisie demande à emprunter au FMI après la révolution et elle doit déjà rembourser 268 millions de dollars d'un autre prêt.
À mon avis, ce n'est pas un problème de mauvaise gestion. C'est avant tout un problème structurel qui vient au-dessus de tous ces prêts que nous prenons. Pourquoi est-ce que la Tunisie n'a pas cessé de demander des prêts? Parce qu'elle avait besoin de monnaie forte, de devises, pour pouvoir rembourser d'anciens engagements auprès de créanciers étrangers.
Mais ces devises servent aussi à entretenir une économie de rente, selon Mohamed Haddad, à qui la dette profite.
Il y a des Tunisiens qui sont très 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 contents de l'endettement et qui tiennent absolument à ce que l'endettement continue. Ce sont les Tunisiens qui sont une élite dominante économique et en relation avec le politique, qui profite du système économique actuel, à savoir un système qui est basé sur l'exportation-importation. Et donc, c'est cette minorité de Tunisiens qui travaillent dans l'import-export, elle a besoin que la Banque centrale dispose de réserves en devises.
Du côté du gouvernement, l'argument évoqué est souvent le paiement de la masse salariale qui représente près de 15% du PIB en Tunisie et 600 000 personnes. Mais ces fonctionnaires ressentent aussi l'impact de la dette et n'arrivent pas à joindre les deux bouts face à l'augmentation des prix. Comme Charfedine, 43 ans, fonctionnaire dans un ministère.
Je crois qu'on est dans une spirale, mais on ne voit pas l'issue parce que à chaque fois qu'il y a des augmentations salariales, il y a une augmentation vertigineuse des prix, par exemple si on va pour acheter des légumes, pour acheter des produits laitiers.
Et pour les Tunisiens qui perçoivent le salaire minimum d'environ 150 euros, le montant est très éloigné de ce qu'il faut désormais pour vivre dignement, selon Alpha Lamloum, directrice du bureau de l'ONG International Alert à Tunis. Elle a collaboré à une étude sur le budget de la dignité en Tunisie, 10 ans après la révolution.
Des chercheurs ont chiffré ces besoins et ont évalué le budget de la dignité à 2400 dinars tunisiens, c'est-à-dire l'équivalent de 730 euros. 40 à 50% de la population dans le Grand Tunis n'a pas accès aujourd'hui à des conditions de vie dignes.
Aujourd'hui, la dette publique menace les attentes économiques de la révolution, car elle ne permet pas de changements structurels profonds pour aider les Tunisiens à mieux vivre.
Un reportage signé Lilia Blaise à Tunis. Ishak Diwane, la Tunisie, c'est un pays que vous connaissez. L'endettement public doit-il nourrir obligatoirement la croissance?
Idéalement, oui. Parce que pour que la dette soit soutenable dans le temps, il faut que la croissance soit plus haute que le taux d'intérêt qu'on paye sur cette dette. C'est une façon pour que le poids de l'endettement diminue avec le temps. Donc quand on s'endette pour faire de la croissance, ça peut être soutenable. Le problème, c'est quand on s'endette pour faire de la consommation ou de l'augmentation de salaire, comme a été bien dit dans votre reportage. Donc la situation en Tunisie inquiète, pas vraiment dans le court terme, dans l'année qui vient, mais il est clair que c'est qu'il y a un problème politique, qu'il y a cette fragmentation politique qui ne permet pas à l'État de faire les bons choix, aussi bien dans les ajustements budgétaires que dans les réformes qu'il faut faire pour accroître la croissance, pour que cette dette devienne soutenable et qu'elle n'explose pas, comme elle a explosé au Liban, par exemple, causant des dégâts terribles.
La dette au Liban a explosé. Est-ce que la crise du Covid joue un rôle? Alors, on sait bien qu'il y a des terribles problèmes politiques au Liban, un fractionnement du pays. Est-ce que la crise du Covid a joué un rôle dans l'explosion de cette dette?
En fait, la dette a explosé avant Covid. Ça fait 10 ans au moins que le gouvernement libanais emprunte à des taux de 10% alors que la croissance est de zéro. C'était carrément ce qu'on appelle un scheme à la Ponzi. À la Ponzi, c'est-à-dire des prêts qu'on peut pas rembourser. C'est intéressant que la crise libanaise a démarré dans le secteur bancaire. Les gens n'avaient plus confiance dans les banques, ont couru pour retirer leurs fonds, et c'est ça qui a poussé à l'effondrement du système. Et un des risques en Tunisie, c'est ça. Le gouvernement a beaucoup emprunté, non seulement internationalement, mais aussi domestiquement. Je dirais que c'est aussi le cas en Égypte et en moindre partie en Jordanie. Donc il y a des risques de crises multiples qui peuvent démarrer dans le système bancaire domestique, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure en Europe, et qui entraînerait aussi des crises économiques et des crises financières internationales.
C'est votre analyse aussi, Chérif Salifsi, à Dakar?
Oui, je le pense, mais je ne comprends pas pourquoi on voudrait le réfuter pour ce qui concerne les entreprises françaises, alors que c'est la Banque de France elle-même qui dit que l'endettement des entreprises françaises au début de 2021 est de nature à dégrader fortement la situation financière des entreprises fragiles. Et à ce moment, cela pourrait se traduire par une augmentation importante des défauts de sociétés non financières, et qui serait de nature à peser sur le résultat des banques commerciales via une augmentation des pertes et provisions. C'est une situation similaire, que ce soit en Tunisie ou en France. L'endettement est devenu très très important à cause de ce déploiement très important de soutien social et qui mène les pays dans ce qu'ils appellent le risque stable. Je suis tout à fait d'accord donc avec l'analyse qui a été faite concernant la Tunisie comme concernant le Liban. Il y a un véritable risque quand même.
Agnès Benassi-Kéré, comment est-ce qu'un pays s'endette? Quels sont les moyens techniques pour s'endetter?
Alors, selon qu'il s'agit de l'État ou des entreprises, ce n'est pas tout à fait pareil.
Oui.
Donc l'État émet de la dette sur les marchés. Donc il y a un processus extrêmement encadré pour éviter tous les conflits d'intérêts. Possible lors de cette opération appelée émission de dette sur le marché primaire. Donc c'est la première fois qu'on émet la dette. Et ensuite, cette dette, ce sont des obligations, donc c'est des titres échangeables. Et donc elles s'échangent sur le marché secondaire. C'est comme ça que ça marche. Pour les entreprises, la très grande majorité des entreprises sont des PME. L'immense majorité, je devrais dire, sont des PME. Donc quand elles s'endettent, c'est pas sur le marché, c'est auprès de leur banque. Et donc effectivement, et là je voudrais corriger quelque chose, on a aujourd'hui un peu l'image inverse de la crise financière mondiale d'il y a 10 ans. À l'époque, la crise est née sur le marché financier et les banques ont été extrêmement, on s'aperçoit qu'elles étaient très vulnérables. Aujourd'hui, non seulement elles ont été renforcées, mais la crise naît dans le secteur réel, ce sont les entreprises. Et les entreprises représentent, enfin, donc les banques prêtent aux entreprises, mais ça reste une partie relativement petite dans leur bilan. Alors on peut le regretter, mais aujourd'hui on en est plutôt content parce que ça veut dire que même s'il y a des défauts des entreprises, ça n'est pas de nature mettre en crise les banques. Sauf s'il y a vraiment une catastrophe où l'ensemble de l'économie part en vrille. Mais normalement, les banques sont suffisamment solides pour absorber même des scénarios assez dégradés sur les entreprises qui ont emprunté. Alors maintenant, les grandes entreprises peuvent aussi s'endetter comme les États sur les marchés. Et elles le font beaucoup d'ailleurs, elles l'ont beaucoup fait. Même avant la crise, il faut avoir en tête que 17% des entreprises en France étaient comptablement insolvables, c'est-à-dire que leur dette était supérieure aux actifs. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes entreprises. Les entreprises, elles commencent par avoir des comptes dégradés pendant quelques années, c'est normal. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être catastrophiste. Être insolvable, avoir beaucoup de dettes, ça n'est pas nécessairement faire faillite. Une entreprise insolvable peut restructurer son bilan, elle peut restructurer ses activités, elle peut fusionner avec une autre entreprise, elle peut recevoir des financements avec d'autres projets. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça ne veut pas dire la liquidation, c'est vraiment la solution ultime. Et nous ne pensons pas que cette solution ultime sera une énorme vague en 2021, ni même en 2022.
Est-ce que les entreprises bénéficient au même titre que les États de la baisse globale des taux d'intérêt ?
Oui, absolument, absolument. Et ça, c'est un élément absolument essentiel de la soutenabilité de cette dette. Alors, les États s'endettent surtout à taux fixe. Hein, la dette française, elle a une maturité moyenne de plus que 8 ans.
C'est-à-dire donc, qu'on remboursera au-delà de 8 ans.
Donc en moyenne, parce qu'il y a la dette à un mois et puis il y a de la dette à 50 ans. Donc, mais en moyenne, c'est un peu plus que 8 ans. Et donc, quand le taux d'intérêt monte, il faut attendre 8 ans avant que ça se traduise entièrement par une hausse des paiements d'intérêt. Donc c'est un peu la même chose pour les entreprises, sauf que les entreprises sont plus endettées à taux variable. Donc elles sont plus vulnérables, mais en même temps, leur dette est quand même moins importante. C'est vrai que c'est une chose qui est importante aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. Si les taux d'intérêt remontent, ça peut en effet plomber un peu, mais c'est plutôt la capacité d'investissement des entreprises. Donc, en fait, le risque principal, c'est plutôt là. C'est que les entreprises priorisent le fait d'honorer leurs dettes et au détriment de l'investissement. Donc, on a fait des petits calculs ici au Trésor sur ce risque-là. Il n'est pas non plus absolument gigantesque. Il serait peut-être de l'ordre de 1 ou 2% sur l'investissement.
Ça veut dire quoi, ça, 1 ou 2% sur l'investissement? C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2% des entreprises?
Ça veut dire que le supplément de dette des entreprises au sortir de la crise pourrait, toutes choses égales par ailleurs, réduire leur investissement de l'ordre de 2%. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement met en place les prêts participatifs. Donc, c'est des financements qui ne sont pas de la dette normale, c'est de la dette ce qu'on appelle junior, et qui va permettre aux entreprises en fait, de rétablir leur bilan et justement de lever cette hypothèque sur l'investissement. Ça va leur permettre de se remettre à investir en dépit du fait qu'elles ont accumulé de la dette pendant la crise.
Et Jacques Diwan, est-ce que les stratégies d'endettement en France, en Europe et aux États-Unis sont les mêmes? Est-ce qu'on s'endette de la même manière dans un pays comme les États-Unis avec une monnaie de réserve quasiment, le dollar, et une zone comme la zone euro?
Oui, on remarque quand même, enfin en gros, les stratégies sont les mêmes et on peut être en gros optimiste que ces stratégies de relance de l'économie en V avec des taux d'intérêt bas vont bien marcher.
Une économie en V, ça veut dire avec une reprise très rapide.
Exactement.
Hein, on touche le fond très vite et on rebondit très vite.
Exactement. Il faut noter quand même que les États-Unis font beaucoup plus que l'Europe en la matière parce qu'ils profitent du fait que le dollar est une monnaie de réserve et il y a l'impression aux États-Unis qu'on peut dépenser infiniment en ce moment sans faire bouger les taux d'intérêt très rapidement à cause du besoin de dollars dans le monde entier, entre autres. Donc, c'est les États-Unis qui attirent le plus l'épargne mondiale en ce moment. Ils prennent un grand pari de relancer l'économie très fortement avec un plan énorme de 2 trillions 2 000 milliards de dollars que Biden a annoncé il y a quelques jours.
Chérif Salifsi, est-ce que c'est le reste du monde qui paye l'endettement américain?
Dans une certaine mesure, oui, mais les États-Unis quand même ont des capacités à se ressaisir par elles-mêmes, comme le montrent déjà les indicateurs. Hein. L'évolution des faillites des entreprises est en train d'être résorbée sans faire appel au reste du monde. Ça, c'est des capacités propres à la société américaine en termes de viabilité de l'endettement, de solvabilité, surtout d'énormes capacités quand même de remboursement. Oui, le reste du monde contribue à soulager les États-Unis, mais les efforts principaux, comme on l'a vu, à travers les décaissements importants viennent des États-Unis elles-mêmes. Je crois que ça aussi, il faut le souligner.
Alors, on s'endette, il faut rembourser, quoi qu'il arrive. Et parfois, on n'y arrive pas. Près d'autres pays africains comme la Zambie et l'Éthiopie, c'est au tour de l'Ouganda de mettre en garde sur sa capacité à rembourser sa dette nationale. Une dette partagée notamment par la Chine, la Banque mondiale, le FMI, mais aussi les banques commerciales ougandaises. Et le recours aux emprunts dans ces banques commerciales a pour conséquence, notamment, l'augmentation des taux d'intérêt des crédits aux entreprises. Le secteur privé a de plus en plus de mal pour obtenir des prêts. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs à Kampala, signé Lucie Mouillot.
Derrière le stand installé à l'entrée de son restaurant, Christine Naloudze prépare une assiette de frites pour l'une de ses clientes. À l'intérieur, la fumée s'élève d'un feu de charbon de bois aux cuisses des bananes plantains. Après avoir repris l'établissement il y a 5 ans, la jeune femme voudrait maintenant investir dans de nouveaux équipements.
Je voudrais que mon restaurant soit beaucoup plus moderne. J'ai besoin d'acheter des canapés, des tapis. Je voudrais aussi, par exemple, avoir un comptoir de bar. Parce que maintenant, le restaurant voisin nous fait de la compétition. Et avec cette compétition, je vois tout ce qu'il faut changer.
Mais pour réaménager son restaurant, Christine Naloudze doit avant tout obtenir un prêt. Difficile pour elle de répondre à toutes les conditions imposées par les banques et notamment aux garanties de remboursement.
J'ai déjà eu un prêt de 500 000 shillings ougandais, mais quand j'ai voulu rembourser, on m'a dit que le délai était passé. On m'a pris les grandes enceintes que j'utilisais dans mon restaurant. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin d'un nouveau crédit parce que je dois tout moderniser.
De l'autre côté de Kampala, Hakim Sekana s'inquiète lui aussi de l'avenir de sa concession automobile.
On vendait au moins 2 voitures par jour et maintenant, on peut passer 2 semaines sans en vendre une seule.
Dans les allées, de nombreuses places de parking restent vides. Avec la crise économique, le concessionnaire n'a plus de fonds pour investir. Il voudrait emprunter, mais l'augmentation constante des taux d'intérêt qu'il a observé pour un premier crédit le fait hésiter.
Pendant 5 ans, les taux d'intérêt n'ont pas arrêté de changer. J'ai payé 20% d'intérêt pendant 1 an et demi. Et avant d'avoir fini de tout payer, le taux d'intérêt était monté à 23%. Ce n'est vraiment pas normal.
Pour Aosi Kiboa, analyste économique, l'augmentation de 35% de la dette nationale l'an dernier est l'une des raisons de l'emballement des taux d'intérêt. L'Ouganda doit 18 milliards de dollars à ses créanciers, dont 890 millions aux banques commerciales. Un investissement qui réduit le capital de ces banques réservées pour les crédits du secteur privé.
Très peu d'Ougandais placent leur argent dans les banques, ce qui veut dire que les banques commerciales ont très peu de capital avec lequel travailler. Donc si l'État accapare ce capital en empruntant de plus en plus aux banques commerciales, les entreprises sont privées de cet argent.
Sur le plan national, la banque Stanbic est l'un des plus grands créanciers de l'État. Israël Arinetwe, l'un des cadres de la banque, admet qu'avec la crise économique du Covid-19, il est d'autant plus prudent d'investir dans la dette de l'État plutôt que dans les entreprises.
Les prêts non remboursés représentent maintenant 2,5 ou 2,7%. L'année précédente, c'était en dessous de 2%. Donc on observe une détérioration des capacités des entreprises à rembourser leurs prêts. Alors évidemment, les bons au trésor sont les investissements les plus sûrs. Mais nos principaux investissements restent auprès de nos clients.
La dette nationale devrait dépasser la barre des 50% du PIB dès juin. De nouvelles mesures sont en discussion pour augmenter les revenus de l'État et éviter de nouveaux emprunts. Des taxes sur l'essence et sur Internet ont par exemple été adoptées au Parlement au début du mois.
Un reportage signé Lucie Mouillot à Kampala en Ouganda. Donc il n'est pas nécessaire d'être surendetté pour avoir du mal à rembourser, Chérif Salifsi.
Non, ça dépend des processus. Le cas de la Zambie et de l'Ouganda se ressemble un peu. C'est des pays qui d'abord ont bénéficié de l'allègement de la dette et ils ont donc des problèmes liés à ce processus. Mais dans les cas, en général, dans ces pays-là où l'endettement est très élevé, les suspensions accordées par des groupes, parce que c'est ça qui est arrivé dans les pays, permettent simplement à d'autres créanciers moins endurants d'obtenir plus de paiements au titre du service de la dette avant que l'entrepreneur ne fasse défaut, ce qui est arrivé en 2020 en Zambie. Et à ce moment-là, si vous combinez le manque de ressources des entreprises locales, ça amène à des crises extrêmement graves. Et je crois que c'est pour ça qu'on considère ces deux cas la Zambie et l'Ouganda comme des cas d'école. Donc l'Ouganda fera probablement comme la Zambie, continuer à rembourser renforcer les capacités des structures bancaires locales, rembourser jusqu'au défaut de paiement qui va probablement arriver. C'est ça la situation.
Échec Diwan, l'Ouganda et la Zambie, disait Chérif Salifsi à l'instant, sont des cas d'école, mais est-ce que ce sont des exceptions ou est-ce que c'est un modèle qui peut se répliquer dans d'autres régions que l'Afrique sur le problème de la dette? Est-ce qu'on peut voir ça dans d'autres pays, en Amérique latine, en Asie?
Oui, complètement. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. On voit une très grosse crise de la dette qui émerge dans les pays pauvres et les pays à revenus moyens. Il y a certaines estimations, il y a une cinquantaine de pays qui seront en difficulté de dette dans les quelques années à venir. La croissance s'est effondrée dans ces pays. Il y a beaucoup de rareté, beaucoup de difficultés à trouver du capital. Le capital domestique s'est échappé. Il y a du mal à reprendre des prêts sur les marchés internationaux. Le tourisme a baissé. Ce que les travailleurs envoyaient a aussi baissé. Il y a une très grande crise qui se prépare dans les pays plus pauvres. Il y a déjà en 2020 une centaine de millions de pauvres en plus. Une perte de croissance d'à peu près 10%. Il faudra attendre au moins jusqu'à 2025 pour établir le niveau de revenu où on était l'année passée, donc au moins 5 ans de perdu. Peut-être pire parce que la vaccination avance très 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 faiblement, très lentement. On s'attend à que les pays plus pauvres soient vaccinés au mieux à la fin de 2022. Donc le choc n'a pas encore passé. Les États n'avaient pas les moyens de résorber ce choc, comme ça s'est fait en Europe, comme on l'a discuté tout à l'heure. Les pays pauvres ont dépensé 10 fois moins pour supporter leur économie pendant la crise, qui continue aujourd'hui. Les pays à revenus moyens, 3 fois moins. Ils n'avaient pas les moyens. Et donc, c'est une crise aussi bien sociale, économique et financière qui risque de se préparer dans les années à venir. Il est très important maintenant que l'agenda mondial pivote et se penche vers les problèmes de développement, un grand orage qui s'annonce. Et il faut s'en occuper. Il faut commencer par les vaccinations, faire un effort beaucoup plus fort pour vacciner les pays les plus pauvres beaucoup plus rapidement. L'initiative COVAX est toute petite par rapport aux besoins. Il y a eu des grandes annonces il y a quelques jours pour libérer les droits intellectuels, pour fabriquer beaucoup plus. On a fabriqué 15 milliards de vaccins jusqu'à maintenant. On a besoin d'au moins 15 milliards. Il faut lever des fonds. On a besoin d'un bon 200 milliards de dollars juste pour aider les pays pauvres à traverser cette pandémie avant même de se remettre à se développer. Il y a des crises de dette qui s'annoncent en série. Dans le temps, il y avait la dette des crises d'Amérique latine ou d'Asie ou d'Afrique, une à la fois. Maintenant, c'est toutes qui s'amènent en même temps. Les structures internationales ne sont pas là pour pouvoir les résoudre facilement, surtout qu'une bonne partie de la dette est une dette privée, des eurobonds, où il n'y a aucune structure pour rapidement résoudre ces questions et baisser la dette. Et puis, à plus long terme, l'aide au développement n'est pas à la hauteur. Elle est restée de 150 milliards par an, alors que avec les grands défis incluant climatique, on a besoin de au moins 250 milliards de transferts par an. Donc, il y a des très grands chantiers. En gros, je dirais 4. La vaccination, la liquidité, redonner accès au marché, la crise de la dette qui vient, comment la résoudre, et se mobiliser de nouveau pour aider financer le développement avec évidemment des moyens budgétaires beaucoup plus restreints dans les pays riches. Donc des très grandes questions qui se posent aujourd'hui par rapport à cette divergence qui émerge entre les pays pauvres et le monde riche qui finalement s'en sort bien.
Agnès Benassi-Kéré, au Trésor français, on regarde cette divergence dont parle Ishak Diwan entre pays pauvres et pays riches face à la dette ?
Oui, absolument, puisque, comme vous savez, le Club de Paris, comme son nom l'indique, est à Paris et géré par le Trésor.
Oui.
C'est le club des créanciers publics, et donc il y a eu des initiatives pour... de moratoire sur la dette des pays pauvres. Mais je veux peut-être revenir sur ce que disait Michel Diwan juste avant moi. Il a dit deux choses qui me semblent extrêmement importantes. La première, c'est le manque de capitaux. Et moi, je l'interprète aussi de capitaux propres. C'est-à-dire, ce dont on a besoin beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est des fonds propres pour les entreprises, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, des investissements directs. Des multinationales dans les pays pauvres pour donc ça c'est très important, c'est pas de la dette hein, on a besoin de fonds propres, des capitaux sous forme de fonds propres. Et le chose qu'il a dite, c'est la vaccination, et ça c'est absolument clé. Un pays comme la Tunisie dont on parlait tout à l'heure, une grosse partie de l'activité c'est le tourisme, et pour faire redémarrer le tourisme, il est indispensable d'assurer la vaccination. Pour de manière à ce qu'il y ait une attractivité qui revienne pour les touristes étrangers. Donc ça, c'est quelque chose qui, est avec un rendement par dollar, par euro, par dinar dépensé, qui est énorme, qui est absolument énorme. Donc on parlait de choix, d'endettement. Hein, s'il faut s'endetter aujourd'hui, s'endetter pour la vaccination, c'est... Alors, il y a Covax, hein, je sais bien que c'est trop petit, etc. Mais s'endetter pour la vaccination, c'est vraiment le meilleur rendement en termes d'investissement qu'on peut imaginer. Et je suis tout à fait d'accord que la dette, quel que soit son niveau, elle est soutenable si elle a permis de financer des investissements qui augmentent le PIB. Pourquoi ? Parce que le PIB, in fine, c'est la capacité, non pas à rembourser la dette. Quand on parle de rembourser la dette, ça me gêne un tout petit peu parce que on a l'air de dire qu'on va rembourser l'intégralité de la dette. Non, c'est stabiliser la dette et pouvoir la renouveler, donc garder la confiance des marchés de manière à pouvoir, quand une dette vient à échéance, de pouvoir la rembourser mais avec une nouvelle dette auprès des investisseurs. C'est ça la clé pour les années à venir.
La clé, Chérif Salifsi, vous considérez, vous, que on est à la veille d'une grave crise de la dette dans les pays émergents ?
Le risque, il est là, en raison des faiblesses que nous venons tous d'évoquer. Je pense qu'à ce moment-là, il serait préférable pour les pays riches d'allouer directement des ressources disponibles aux dépenses liées à la pandémie. D'abord, soit en achetant des vaccins, selon le procédé COVAX, ou en finançant directement les achats intérieurs. De cette façon, les pays avec des niveaux d'endettement élevés et insoutenables dans les deux régions du monde dont nous venons de parler pourraient encore recevoir un soutien. Et à ce moment-là, je pense que les fonds monétaires pourraient alors soutenir les pays dont le fardeau de la dette est insoutenable de la manière habituelle. Voilà ma conclusion à notre discussion.
Conclusion à discussion, la dette, il en sera de nouveau question longuement sur RFI le 18 mai prochain à l'occasion du sommet de la dette qui se tient à Paris avec les pays africains. Merci à vous trois, Agnès Benassi-Kéré, Chérif Salifsi, Jacques Diwan, d'avoir accepté l'invitation de RFI, l'invitation d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.
Tout à l'heure,